Nicolas Trub, ma retraite à 29 ans, un précis de création d'entreprise à l'usage du salarié, édition Michalon. Introduction. Dans la pensée occidentale courante, prendre sa retraite consiste à quitter son emploi et son patron pour consacrer le reste de sa vie à des activités que l'on a toujours rêvé de faire et à accepter pour cela de vivre avec des moyens financiers inférieurs. J'ai donc pris ma retraite le 1er septembre 1997. J'avais 29 ans. Beaucoup de mes collègues de la grande entreprise étaient encore dans la torpeur des vacances, ce qui m'a permis de me dispenser d'organiser un pot de départ. En 3 ans et demi de vie d'ingénieur développeur, pas du tout modèle, j'avais subi quelques-uns de ces rituels sordides. Ils se passaient dans une salle sinistre fournie par le comité d'entreprise où le mousseux tiède coulait à flots dans des verres en plastique venant hydrater des cacahuètes trop salées dans la déprime générale du vendredi soir, car après le week-end qui s'annonçait, il y aurait un lundi, et tout recommencerait. Le clou du buffet était parfois un pain surprise mal dégongelé, significatif contresens que cette dénomination, puisque tout le monde sait ce qu'il y a dedans. Un bref passage devant le chef du personnel pour signer mon chétif solde de tout compte, et me voilà face à moi-même. Sans patron, mais pas sans maître. Papa me l'a dit et répété, sans pour autant se l'appliquer à lui-même. L'esclave n'est pas celui qui a un maître, c'est celui qui ne peut pas choisir son maître. 30 mois plus tôt, j'avais choisi mon futur maître, ou plutôt ma nouvelle maîtresse, l'économie de marché. Un face-à-face permanent entre l'offre et la demande. Mes idées de bricoleur avancé contre le grand public et son fameux porte-monnaie. Ma vision du quotidien contre le panier moyen de la ménagère de moins de 50 ans. J'avais acheté une place en tribune pour ce match du siècle, en créant, en douce, Stylic Force, fabricant de solutions pour le quotidien, une SARL au capital de 50 000 francs. J'ai menti à mes collègues sur l'objet de mon activité à venir en parlant d'une entreprise high-tech, alors que justement, j'ai créé une entreprise absolument low-tech. Le fait que je quitte un boulot monstrueusement stable pour gérer une nano-société était déjà assez incompréhensible. Je n'ai pas voulu leur infliger cet étage supplémentaire de perplexité. Au fur et à mesure des années, j'ai commencé par envier, puis par plaindre les créateurs d'entreprises qui se lancent à dessein sur « un marché porteur », entre guillemets. Quelle curieuse idée en effet que de s'inféoder aux tendances du moment. Quelle fragilité surtout. Quel danger pour la société que d'amplifier par ce suivisme les démences de l'époque. À cause du marketing, ce ne sont plus les citoyens qui choisissent les produits. Ce sont les produits qui choisissent les citoyens. Il ne m'a pas fallu si longtemps pour comprendre la différence entre l'entrepreneur et l'affairiste. Pulsion de vie contre pulsion de mort. Rien que ça. Je ne suis pas entré dans le design parce qu'il y avait de la lumière. J'y suis entré parce qu'il faisait sombre et que j'ai voulu y apporter de la lumière. Et bien sûr, j'ai échoué. Enfin, pas complètement. Et puis, pas encore tout à fait. Se lancer sur un marché porteur, entre guillemets, faites-vous un porteur, c'est-à-dire soit un héros, soit un misérable. Et parfois, les deux en même temps. Chaque jour où mon entreprise continue à exister, où elle parvient à payer, même avec peine, ses collaborateurs, ses fournisseurs et ses diverses administrations de tutelle, elle demeure un objet précieux qui n'a pas grand-chose à voir avec son timide compte de résultats. Mon entreprise est cet outil de rapport au réel qui me permet d'apporter une contribution au réel. Et lorsque, d'aventure, cette contribution s'avère rentable, elle me paye pour cela. La raison sociale de Stylic Force, mentionnée comme il se doit à l'article 2 de ses statuts, est, je cite, « la création et la vente de produits innovants à destination du grand public ». Cette description absolument vague est son plus grand défaut, puisque les entités médiatiques de nos temps « modernes » entre guillemets ont pour mandat de vous caser dans une catégorie convenable jusqu'au jour où, de garlasse, sera créée une nouvelle catégorie, exprès pour vous. Allons, enfants de la patrie, ce jour de gloire va peut-être arriver. Dès l'origine, et sans vraiment méditer l'hypothèse contraire, j'ai choisi de privilégier la production locale, car je suis rigoureusement incapable de penser mon propre avenir indépendamment de celui de la nation qui m'abrite. Et faire croire une économie sans industrie, c'est comme faire pousser des tomates sans terre. Ça marche un moment, mais un jour, on se rend compte qu'elles n'ont plus aucun goût et que l'on y met assez de pesticides pour empoisonner durablement ceux qui les mangent. Sans le savoir, j'ai donc créé en 1995 une entreprise de commerce équitable, mais petits producteurs, tous basés en France, étant sous le quadruple contrôle tatillon de l'URSSAF, du tribunal de commerce, de la répression des fraudes et de l'administration des impôts. Qui dit mieux ? Mon entreprise a cumulé tous les handicaps possibles. Un métier pour lequel je n'avais pas été formé, des capitaux très faibles, Une conjoncture atone, un domaine d'activité flou, une ambition démesurée, des coûts de production soutenus et des considérations sociales globales rarement mentionnées dans les manuels de création. J'ai donc rencontré toutes les difficultés possibles. Amateurisme de mes approches, incessantes tracasseries financières, difficulté à gérer ma déception dans un marché peu réceptif et haussement d'épaules permanent vis-à-vis de mes scrupules sociaux, en particulier de la part d'individus se targuant de voter à gauche. 15 ans plus tard, ma boîte est toujours ouverte. Cela me rend apte à révéler la passion de l'entrepreneuriat chez n'importe qui, puisque j'ai maintenu contre vents et marées une entreprise qui fait n'importe quoi. J'ai ce sentiment persistant que chaque jour de sa vie est le premier. Il y a un soir, il y a un matin, et chaque journée qui s'annonce peut être celle où la martingale que j'ai patiemment forgée se mettra vraiment en phase avec le marché. Dans Rambo, le colonel affirme qu'il a si complètement formé son incrottable rejeton à la survie que ce dernier serait capable de manger ce qui ferait vomir un bouc. En 15 ans, j'ai parfois mangé ce qui ferait vomir Rambo. À table!